106.9, Mauricie. La Mauricie se lève. Voici Patrick Lagacé.
Salut Patrick.
Salut Catherine.
Bon, évidemment, c'est le dossier ce matin. Tu retiens quoi? Donc, une sentence de 2 ans moins un jour. Tu as peut-être entendu une partie de la conversation avec Nicole Poirier, qui dirige la maison Carpe Diem ici en Mauricie. Penses-tu qu'un jour, on trouvera une solution pour ces gens-là atteints d'Alzheimer? Parce que on parle de l'aide médicale à mourir, mais pour une maladie comme celle-là, comment on va faire ça, Patrick?
Bien, pour l'Alzheimer puis d'autres maladies dégénératives du même type, là, qui sont pas forcément physiques, bien, la discussion est un peu enclenchée. Hein? Rappelle-toi que la CAQ avait promis de réfléchir à élargir les critères d'admissibilité pour les gens qui ont l'Alzheimer. On est loin de ça, par contre. Écoute, ça a pris quoi? Tu sais, rappelle-toi Robert Latimer, c'est un fermier de l'Ouest canadien. Je me rappelle pas de la date exacte, là, mais si je me trompe pas, c'est dans les années 90. Il avait tué sa fille qui était atteinte d'une maladie. Elle était née, là, très poquée, là, des maux physiques, neurologiques, cognitifs. Là. Et il l'avait tué, ça avait été une cause célèbre. Et ça a pris quoi? 2 générations à peu près, là, au moins 30 ans. Avant que le Canada se dote d'une loi pour encadrer l'aide médicale à mourir pour les gens qui ont des maux physiques, OK?
Oui.
Là, tu arrives pour les maux neurologiques. Et la procédure, ce serait quoi? Ce serait de dire, bon, moi, là, quand je vais arriver au stade 3 ou 4 de l'Alzheimer, je veux qu'on me donne l'aide médicale à mourir. Peut-être qu'on va voir ça de notre vivant, Catherine, puis je nous le souhaite, mais je pense pas que les mentalités soient rendues là encore.
Ah non?
Non.
Mais c'est une question de mentalité ou c'est une question de porter cette responsabilité-là? Parce que, tu sais, tu peux élargir les critères, Patrick, mais demain matin, là, moi, j'apprends que j'ai l'Alzheimer, OK? Oui. Puis je sais que, bon, je vois les choses aller, je sais comment ça va se terminer. Oui. À quelque part, la décision finale, elle ne me revient pas. Elle va revenir à mon chum, à quelqu'un de proche.
Exactement, c'est ça. L'affaire, c'est que, présentement, pour consentir à l'aide médicale à mourir, tu dois y consentir.
Ouais.
Tu dois pouvoir être conscient et dire « oui, je sais ce que c'est, oui, je le veux ». Évidemment, si tu as la maladie d'Alzheimer, tu ne peux pas dire ça quand tu es rendu à un stade plus avancé de la maladie. C'est-à-dire que tu en souffres, tes proches souffrent de te voir souffrir et de t'épauler là-dedans, mais toi, tu ne peux pas le dire, tes proches ne peuvent pas le dire, puis on ne veut pas que les proches le disent non plus. Donc là, la théorie, là, le plan de match de ceux qui pensent que c'est une bonne idée, ce serait de dire, OK, pendant que je suis conscient, là, je vais faire des directives anticipées. Je vais écrire sur un papier, peut-être en collaboration avec un médecin, quand on va arriver à tel stade, quand je ne serai plus capable de faire telle affaire. Tu sais, moi, j'ai interviewé une femme là, un jour qui m'a dit, quand je vais faire pipi dans mes culottes, là, puis que je ne reconnaîtrai plus mes proches, c'est là que je veux qu'on me tue. Parfait. En théorie, c'est beau, mais après ça, il faut codifier ça dans la loi et c'est ça qui est difficile. Il y a beaucoup de gens qui pensent encore que l'aide médicale à mourir est une pente dangereuse, qu'on va servir de ça, par exemple, pour vider nos hôpitaux et nos CHSLD, ce qui est entièrement faux. Ça va être quoi, là, si on peut commencer à faire des directives anticipées comme ça?
Ouais. Voilà. Patrick, tantôt, là, Mme Poirier nous disait, parce que, tu sais, elle connaît ça, elle dirige une maison qui s'occupe de ces gens-là. Elle dit le problème actuellement, c'est que en termes de soins à domicile, le budget est là. Donc, les gens ont de l'aide. C'est lorsqu'ils transfèrent en établissement. Le transfert ne se fait pas. Et tu sais, Marguerite Blais, avec son idée maison des aînés, comment ça se fait qu'on n'est pas capable de rejoindre les deux? Tu sais, si tu es transféré en établissement, faut aussi que ça vienne avec. Faut que tu aies des ressources pour... Ouais. Tu sais, ça veut pas dire que rendu en établissement, tout est réglé. Au contraire.
Ben, écoute, non, tu as raison. Tout n'est pas réglé. Je pense que ça va toujours être difficile pour les proches de gens qui sont malades, particulièrement pour les proches de gens qui ont l'Alzheimer ou des maladies connexes, OK, des maladies de démence.
Oui.
Quand tu as la maladie d'Alzheimer, que tu sois à la maison là, vers la fin, et quand je dis vers la fin, il faut mettre un bémol, là, Catherine, parce que la fin peut être longue.
Ben oui.
Que tu sois à la maison ou en CHSLD, tu as besoin de soins 24 heures. Tu as besoin, bien souvent, d'être surveillé 24 heures sur 24 parce que tu peux faire de l'errance, c'est-à-dire que tu peux essayer de t'échapper. Moi, on m'a raconté que ces gens-là peuvent marcher dans le centre qui quasiment toutes leurs heures éveillées,
mm-hmm.
Vont avoir des épisodes de d'agressivité. Donc, tu peux pas juste les laisser au lit. Tu sais, Madame Lisotte, là, dont on a beaucoup parlé parce que Michel Cadotte a eu son procès,
ouais.
Elle, à la fin, elle était attachée. Elle
devait 24 être attachée, heures sur 24.
Oui, elle devait être attachée dans son lit 24 heures sur 24. Et monsieur Cadotte était un des rares à être encore là. Puis un des rares, là, je te parle de la moyenne des patients, ouais. est encore là à ce stade-là de la maladie. Et écoute, oui, il y a une réflexion de société à faire, OK?
Mm-hmm.
Mais il y a aussi une réaction, Catherine, je te dirais, de famille, d'individu qu'on doit faire.
Ouais.
Moi, une chose qui m'a frappé, puis je revenais là-dessus en chronique probablement, là, c'est que Madame Lisotte avait fait promettre à M. Cadotte de ne jamais la laisser se faire placer.
Ouais.
Et lui avait promis ça. Et quand il a été obligé de la placer parce qu'il est en train de s'épuiser, il est en train de se tuer lui-même à petit feu, il a vécu ça là, comme un drame. Il a vécu ça comme s'il avait trahi sa promesse.
Ouais.
Et autour de toi, parmi les gens qui nous écoutent présentement, là, il y a plein de gens qui ont fait cette promesse-là.
Ouais.
Ou qui se disent, moi aussi, je veux mourir à la maison. Je le dis, là, Catherine, avec toute la délicatesse dont je suis capable, là, c'est pas forcément une bonne idée.
Non.
Moi, je pense que la meilleure des choses, c'est de dire, je vais te garder à la maison, que ce soit un cancer ou la maladie d'Alzheimer, aussi longtemps que je vais être capable de le faire.
Ouais.
Tu peux pas faire une promesse sur les résultats, parce qu'à la fin, là, tu sais, dans mon entourage, des cancers, des maladies de Lou Gehrig, etc., là, il y en a eu, et les proches s'épuisent.
Ouais.
Donc, ce qu'il faut faire, je pense, c'est d'avoir la discussion à tête reposée là-dessus et d'être pragmatique. Tu peux garder quelqu'un qui est malade à la maison, Catherine, là, c'est possible.
Ben ça tue à petit feu, Patrick.
Mais ça peut te tuer.
Ça peut te tuer. Et je me pose la question, puis encore là, tu as raison, ça prend beaucoup de délicatesse ce matin, parce que je regarde, je l'analyse froidement, cette chose-là, puis je me dis, est-ce que Michel Cadotte, dans la promesse qu'il lui avait faite, est-ce que d'une certaine façon, ça ne l'a pas poussé à poser ce geste-là? OK, c'est gros ce que je dis, mais mm-hmm. quand tu promets quelque chose, il se sentait tellement responsable et tellement mal de dire je l'ai trahi,
oui.
que je vais attendre jusqu'à la dernière limite. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un peu de ça dans le geste.
Écoute, peut-être.
Peut-être pas, là. Peut-être que je me trompe, là.
Mais ce qui est certain, Catherine, c'est que faire cette promesse-là, OK, si vous n'êtes pas là, appuyé là, par des professionnels, ça peut t'épuiser. Regarde, m'a donné un cas, là. Moi,
ouais.
je connais un couple de médecins. Puis quelqu'un dans la famille, là, je pense que c'était la mère d'une des deux personnes qui est tombée malade et qui a dû avoir des soins. Et à la maison, puis je pense qu'il y avait quelqu'un qui était infirmier ou infirmière aussi là, dans le cercle familial. Là. On l'a gardé à la maison. Tout ce monde-là, là, ce sont des professionnels, tu comprends? Là.
Mm-hmm.
Ils savent comment faire des piqûres, savent comment ajuster de la médication antidouleur. Ils se sont épuisés eux-mêmes.
Ouais.
Fait que quand t'es pas médecin, là, puis tu te dis, je vais m'occuper de toi, mon épouse, oui, maman, je vais m'occuper de toi, je vais te garder à la maison. ça se peut que tu t'épuises. T'sais, t'es pas mieux si tu tapes une dépression, tu comprends?
Non. Ouais.
T'es pas mieux si après ça, t'es un an en burn-out après le décès. Moi, je pense qu'il faut avoir ces discussions-là à tête reposée. Puis vraiment, comment je te dirais ça? Vraiment aller voir dans le système, aller voir des gens qui ont vécu ça dans nos entourages. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça se fait?
Mm-hmm.
Moi, je te dis, ça se fait, il y a des belles histoires. Mais je pense que pour la moyenne des ours, là, c'est extrêmement compliqué et beaucoup plus complexe qu'on peut penser.
Patrick, on s'en reparle demain.
À demain.
OK, bye-bye, Patrick Lagacé. Du lundi au jeudi, 7h15.